Et bonjour et bienvenue dans Paris Central. On se retrouve aujourd'hui avec Basto, avec Lolo et avec Rekoba. On espère que tout le monde va bien, déjà pour commencer.
Très bien.
Ouais. Ouais, petite trêve internationale en ce moment qui, bon, l'an dernier, on nous aurait dit qu'elle aurait fait du bien parce qu'avec le PSG de Galtier, on était content quand il y avait des trêves l'an dernier. Mais cette saison, étonnamment et contrairement à ce que l'on pensait, le PSG de Luis Enrique nous manque déjà. Je ne sais pas pour vous, on en parle pas mal, on voit des choses intéressantes offensivement, on en voit aussi défensivement. Bien sûr qu'il y a du progrès à faire dans cette équipe, Rome ne s'est pas faite en un jour. Cependant, la trêve peut quand même nous permettre de tirer quelques enseignements. Et justement, j'allais permettre de poser la première question de ce live, justement avec la blessure de Marco Asensio. Comment ce PSG doit-il jouer? Doit-il jouer avec un vrai neuf? Doit-il jouer avec un faux neuf? Doit-il jouer avec un 9,5? Je propose qu'on fasse le tour des caméras pour répondre à cette question et ce sera Basto qui répondra en premier. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Basto? Est-ce qu'avec la blessure d'Asensio, on doit plus jouer avec un vrai neuf comme Gonçalo Ramos ou peut-être un 9,5 ou un faux neuf avec d'autres possibilités dans l'effectif? À toi de me dire.
Ça, c'est comme d'hab. J'ai envie de dire, c'est Luis Enrique qui a la réponse et ça dépendra de l'adversaire. Asensio a joué Lyon parce qu'il avait été performant contre Lens et il méritait de le rejouer. Et en fixant les défenses, ça permettait des défenses un peu faibles comme Lyon et Lens. C'était intéressant parce que ça permettait de libérer des mouvements pour Dembélé et Mbappé. Nice, qui est une équipe qui se cherche un peu avec un nouveau coach, qui a un projet de jeu qui, pour le moment, n'est pas tout à fait compris par son équipe. Et donc, qui est une équipe qui, même s'ils ont des idées offensives, est plutôt une équipe défensive actuellement. Je pense par exemple qu'un Kolo Muani qu'on n'a pas revu, on le verra ce soir contre l'Allemagne, mais bon, il aura un jour de repos de moins en plus que Ramos. Donc déjà, je pense que vendredi, ce sera Ramos avec son doublé hier, qui a plus de forme et qui aura un jour de repos de plus. Donc contre Nice, une équipe un peu basse, ce sera Ramos. Après Dortmund, qui est complètement différent, que Kolo Muani connaît pour les avoir joués dans le championnat allemand, et une équipe qui laisse beaucoup plus d'espace cette année et qui a des grosses difficultés défensives, ce sera peut-être Kolo. Donc voilà, ça changera. Et contre Marseille, on ne sait pas. Donc ça changera entre Kolo et Ramos. On a des solutions. Il n'y a pas Asensio, mais on a deux autres solutions, deux autres profils différents, ce qui fait notre force aujourd'hui. Et après, il y a un troisième profil, j'en parlais en off avec vous tout à l'heure, qui peut être Barcola, mais je ne pense pas à court terme, mais à moyen terme. Tous ces anciens coachs étaient dans un article dans SoFoot. Tous ces anciens coachs le voient comme un joueur d'axe à l'avenir. Et Luis Enrique en a parlé aussi en conférence de presse lors de sa présentation, comme possiblement un joueur qui peut jouer neuf. Mais je pense que pour le moment, ce sera entre Ramos et Kolo Muani. Et ça, c'est à Luis Enrique de trancher.
Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi, Lolo?
Oh, pareil, ce sera en fonction de Luis Enrique, de l'adversité que tu vas avoir. Quid des défenses très très basses ou des défenseurs très très forts physiquement, notamment contre Nice avec un Todibo qui, on sait, quand il joue contre des attaquants un petit peu plus frêles, mange tout le monde. Et sur les derniers matchs, je me souviens surtout celui que j'avais pu voir à domicile où j'avais vu Mbappé qui n'avait pas réussi à passer un contre un Todibo. Donc moi, contre Nice, par exemple, je mettrais peut-être un Gonzalo Ramos pour pouvoir fixer un petit peu plus cette défense centrale et donner un petit peu plus de liberté en fait à tes joueurs sur les côtés de provoquer contre Atal et contre Melvin Barr. Et après, contre Dortmund, bah ouais, Kolo Muani, à voir aussi ce que ça pourrait donner contre une défense qui va être aussi très haute, des espaces qui vont être laissés dans le dos, comme dirait Basto aussi. Et quid de ce que va donner Marseille. Marseille, là, par contre, ce sera celui qui sera peut-être le plus en forme et qui aura peut-être prouvé, en tout cas, le mieux sur les deux derniers matchs. Donc, à voir. Mais ce sera en fonction de l'adversaire. 9,5, pas 9,5, d'un 9 fixe devant. On a tellement de possibilités maintenant et de polyvalence devant que c'est très intéressant d'attendre et de voir ce que ça peut donner.
Oui, bah, je pense qu'ils ont tout dit. Hein. On va aller vite. Luis Enrique a dit que de toute manière, il avait un groupe de 20-23 titulaires. Donc là, la chance qu'il avait, c'était d'avoir un Asensio qui pouvait mettre faux neuf. Il avait un Gonçalo Ramos qui peut avoir neuf. Un Kolo Muani qui peut être aussi neuf, neuf et demi, etc. Qui peut s'excentrer aussi. Donc il a plusieurs profils suivant du coup l'adversaire, comme ils ont bien dit précédemment. Donc là, la seule donne qui change, c'est que du coup, tu as un faux neuf en moins. Mais tu peux avoir deux autres profils, donc ce sera selon l'adversaire. Et après, je rejoins complètement Basto et Lolo par rapport à Dortmund et par rapport à Nice. Je suis assez d'accord sur les profils qui sont choisis. Donc on verra bien ce qui va se passer, mais je pense que tout a été dit. C'est dommage pour Asensio surtout, parce que le plus grand perdant là-dedans, ce n'est pas le PSG au final, vu qu'on a bien étoffé notre effectif, c'est surtout lui. La blessure en plus est plus grave que prévu. Et forcément, bah, quand on voit la concurrence qu'il y a au poste de neuf, Et quand on voit la concurrence qu'il y a sur le côté, avec Barcola, avec Dembélé, avec possiblement Kolo Muani qui peut y jouer, bah, au final, c'est surtout lui le grand perdant là-dedans. Donc nous, on réussira à se retourner, je pense. On a encore beaucoup de cartouches, mais pour lui, ça risque d'être plus compliqué. On ne sait pas aussi dans quelle forme il va revenir. On sait qu'il a eu plusieurs blessures auparavant et qu'à chaque fois, il mettait du temps à revenir. Donc ça peut être compliqué pour lui, surtout si je commence à jouer des bouts de match, qu'il perd un peu de temps, etc. Ça peut devenir au final une saison compliquée. Donc c'est plus lui le plus grand perdant là-dedans, je dirais.
Alors, pour répondre rapidement à la question, est-ce qu'avec les sélections nationales, ça peut être compliqué de préparer le match pour vendredi? Bah, en fait, ça va dépendre de comment Didier Deschamps va gérer l'effectif. On sait que, on va pas se mentir, ces dernières années, le PSG il en avait un peu rien à faire. Hein. S'il fallait qu'il mette les joueurs jusqu'à les épuisements pour que les joueurs soient blessés en retour de PSG, c'était clairement pas le problème de Didier Deschamps. La donne a clairement changé. Le PSG a recruté Kolo Muani, a recruté Dembélé, a recruté Lucas Hernandez. Et peut-être d'ailleurs maintenant le club qui possède le plus d'internationaux français. Donc je pense que maintenant la donne a changé vis-à-vis de ça. Donc ça va dépendre des discussions justement. Tu sais que le PSG rejoue vendredi. Logiquement, tu fais en conséquence.
Après, il y a les Sudam qui reviendront tard. Marquinhos ou Garté, ça risque d'être compliqué de les voir vendredi.
C'est ça. Donc voilà, justement, ça va dépendre de comment les sélections gèrent la chose. Je pense que bah, maintenant, le PSG pourra plus facilement demander des choses à leur sélection qu'avec les coachs précédents. Je pense que Luis Enrique, il connaît quand même, bah, par exemple, certaines sélections, notamment la sélection espagnole. Ce sera peut-être plus simple pour négocier avec certaines sélections pour pas qu'ils épuisent trop nos joueurs. Mais voilà, comme je te dis, vraiment, ça va dépendre. Et pour revenir à la question sur le 9, moi, ce que j'en pense, bah, Marco Asensio, au final, moi, je pense qu'il n'est pas grillé. Pourquoi ? Parce que bien que Marco Asensio se blesse au mauvais moment, on sait que dans cette équipe, on a beaucoup de joueurs à haut potentiel de blessure. Marco Asensio d'ailleurs en fait partie, hein. S'il n'a pas prolongé au Real, c'est en partie pour ces raisons, c'est un joueur qui se blesse pas mal, mais c'est pas le seul. T'es pas à l'abri que Ousmane Dembélé se blesse en cours de saison, t'es pas à l'abri que Gonçalo Ramos rechute. Le seul attaquant qui est fiable, ne se blesse jamais et va te laisser 0 minute de temps de jeu, au final, c'est Kylian Mbappé.
Kolo Muani aussi, physiquement.
Ouais, voilà. Mais eux sont plus, au final, moins des concurrents d'Asensio, parce qu'Asensio va jouer faux neuf ou ailier droit, alors que Kolo Muani est déjà plus un concurrent pour Asensio que Mbappé. Mais finalement, son seul vrai concurrent à Asensio, on va dire, c'est Kolo Muani par sa polyvalence. Donc voilà, ça va dépendre. Et est-ce que Kang, le conquérant, sera de retour? Alors lui, tu vois, justement, je le vois plus s'insérer au milieu à terme, parce que bah, s'il se met devant, il y aura trop de concurrence, surtout que Barcola vient d'être intégré. Moi, je pense que Kang peut justement être ce profil de le milieu qu'on recherche actuellement, celui qui va faire le lien entre le milieu et l'attaque, celui qui a un profil un peu plus offensif. Parce que bah, pour moi, Vitinha et Warren Zaïre-Emery, c'est des joueurs que j'aime bien, hein, je ne vais pas leur manquer de respect, hein, et puis je serais assez ingrat vu leur début de saison, mais c'est des 8, purs. Alors que justement, je pense que Kang, étant donné son profil de meneur de jeu excentré, un peu ailier qu'il avait à Majorque, bah, je pense que justement, tu peux le reconvertir à ce poste. Et au moins, tu peux créer plus de concurrence. Mais ça, c'est un autre débat, justement, MX, mais tu fais bien de le souligner.
Alors, surtout dans le rôle qu'occupe Vitinha, ouais. Surtout dans le rôle qu'occupe Vitinha, à prendre l'aile gauche comme ça, bah, c'est tout à fait le rôle de Kang In-Lee et ce qu'il faisait à Majorque, parce qu'il peut jouer ailier gauche, il joue souvent ailier gauche, puis il peut jouer aussi dans ce milieu-là, il peut jouer aussi à droite. Donc forcément, un milieu comme ça qu'on demande de se projeter, de faire un peu le jeu et aussi de s'excentrer, bah, c'est parfait au final pour lui. Quoi.
Exactement. Et puis, il faut arrêter qu'on attribue des statuts à des joueurs et qu'ils soient définitifs. C'est pas parce que Kang est actuellement blessé qu'il faut se dire bah, dès qu'il revient il est titulaire. À un moment, moi je suis adepte de la concurrence comme disait Unai Emery, et à un moment bah, c'est celui qui est le meilleur à l'entraînement qui doit jouer le week-end. Faut arrêter justement de se dire bah, Kang il arrive, il est remplaçant, le titulaire c'est Vitinha. Pourquoi Vitinha devrait être titulaire sans être mis en question, surtout s'il trouve un concurrent qui peut le mettre sur le banc, tu vois.
Après, vas-y, toi, Vitinha était en sélection cette semaine, Lee était à Paris, a repris l'entraînement collectif, mais par à bout, on ne sait même pas s'il est prêt. Mais s'il était prêt, vu qu'il s'est entraîné cette semaine avec le groupe, il pourrait jouer Nice. Mais c'est sûr que tu prends le match d'après contre Dortmund, les références, elles ont été faites avec Vitinha pour le moment, et Lee devra faire plusieurs performances de suite pour pouvoir prétendre à sauter Vitinha, surtout qu'il repart très bientôt avec la Corée du Sud en sélection pour les Jeux Asiatiques en plus.
Oui, donc c'est clair que tu ne peux pas trop compter sur lui dans l'immédiat, mais à voir comment il se développe en tout cas, justement, c'est un peu le rôle du coach aussi de faire progresser les joueurs, d'en tirer le meilleur, de savoir où les repositionner. Hein. Je pense Moi, la première idée qui me vient en tête, je pense à John Stones, qui a été parfaitement reconverti dans le double pivot du 3-2-4-1 de Pep Guardiola. Tu peux faire évoluer des joueurs. Regarde Ake et Akanji, quand ils arrivent à Manchester City, on se fout presque de leur gueule. Bah, au final, les mecs sont titulaires et ils sont clairement pas minables dans cette défense. Donc, c'est aussi à Luis Enrique de justement bien intégrer ses joueurs et faire en sorte que les joueurs soient performants au Paris Saint-Germain, dans son système en tout cas. Pour attaquer justement bah, le sujet suivant, un sujet qui va plaire à Basto, tiens. On va parler justement de Fabian Ruiz qui a été performant avec La Rioja et la question se pose justement de quel sera son futur rôle du côté du Paris Saint-Germain. Moi j'en ai une petite idée parce que avant que Basto s'enflamme un peu et nous explique que Fabian Ruiz va nous faire une excellente saison. Il faut rappeler que l'Espagne a joué contre la très très faible Géorgie et de la même manière que le Portugal a joué contre le Luxembourg. Ce n'est pas parce que l'adversaire est faible qu'ils n'ont pas fait le taf. Cependant, rappelons qu'en face, l'opposition, c'est pas le top européen non plus. Mais j'ai laissé Basto commencer en répondant à la question. Est-ce que bah, justement pour toi, Fabien Ruiz, il a un rôle à jouer dans le PSG et si oui, lequel?
De toute façon, on n'a pas 36 milieux, donc tous les milieux qui sont dans notre effectif ont forcément un rôle à jouer, ne serait-ce que d'un point de vue quantité. Je ne dis pas que Ruiz va faire une excellente saison et va être titulaire, non, je trouve qu'on est juste un peu sévère avec Ruiz, notamment cette année. Contre Lorient, quand il rentre, c'est lui qui amène la seule occasion du match de Solaire. Contre Lens, même s'il fait pas une entrée extraordinaire, ses projections font mal et c'est lui qui fait la passe D sur le troisième. Contre Lyon, il rentre dans un autre rôle en 6 et il fait plutôt une très bonne rentrée. Donc il est pas mauvais dans ses rentrées, il n'est pas flamboyant, mais il n'est pas mauvais. Avec l'Espagne, effectivement, c'était que la Géorgie en face, mais c'est une confirmation de ses dernières sélections pendant la Ligue des Nations où il avait joué la finale en tant que titulaire et il avait eu une des meilleures notes dans la presse espagnole, qu'il aime beaucoup, hein, qu'on dit après le match contre la Géorgie, ils ont dit un dandy déguisé en footballeur. Ils ont dit on a retrouvé le Ruiz qui avait illuminé le monde lors du mondial U21. Enfin, ils se sont un peu
Ça
enflammés les
remonte, hein.
Espagnols sur
Ça remonte, hein.
Ruiz, qui a eu la meilleure note du match contre la Géorgie avec un 9 sur 10. Dans Marca notamment, mais bon, voilà, c'était que la Géorgie, comme vous l'avez dit. Mais oui, Ruiz est pour moi le. Bon, il y a Lee qui peut être remplaçant de Vitinha, mais Ruiz est le premier remplaçant de Emery, le premier remplaçant d'Ugarte, parce que je ne vois pas Enrique mettre Danilo dans son milieu, dans la manière dont il joue. Donc Ruiz peut jouer aux trois postes du milieu. Ruiz aura forcément du temps de jeu, c'est évident, et pas qu'un peu, je pense, hein. Il y aura des blessures, il y aura de la rotation. Donc, à Ruiz de continuer sa bonne entrée contre Lyon, mais cette fois-ci en tant que titulaire, être performant, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est bien d'être bon en rentrant en cours de jeu, mais c'est mieux de l'être quand il est titulaire, mais il aura des cartes à jouer.
Ben, Lolo, vas-y.
Non, en vrai, moi, personnellement, je fais partie du train Tonton Fabian sur les derniers moments. Et moi, je pense, en fait, il faut voir exactement notre jugement, pardon, en fait, sur quoi exactement il est basé. Et actuellement, je pense qu'il a été basé sur une saison catastrophique, dans un système de jeu catastrophique, avec un coach inexistant, une stratégie de jeu inexistante. Fabien Ruiz reste quand même un très bon joueur, en tout cas un joueur à un bon niveau, avec une bonne qualité technique. Il a quand même montré des très belles choses à Naples et c'est pas pour rien qu'il a été recruté non plus. Pour moi, je le vois en backup premier choix au milieu de terrain, grâce à sa taille, grâce à sa vision de jeu à certains moments. L'année dernière, il nous a sorti quelques bonnes performances, il ne faudra pas l'oublier aussi, mais surtout dans un PSG qui était malade. Là, voir que cette année, il commence quand même un début de saison qui reste très acceptable et qui a toutes les chances de pouvoir progresser au fur et à mesure avec la titularisation, avec la confiance du coach et tous ces éléments-là. En fait, ça me donne juste de quoi me dire qu'il y aura de la concurrence au milieu de terrain. Ça va donner encore plus à Ugarte, à Zaïre Emery, à Vitinha, à Kanginli de se donner à chaque fois aux entraînements pour pouvoir être titulaire et pousser le groupe vers le haut. Donc, il y a toutes les qualités pour que, en tout cas, Ruiz puisse intégrer la rotation. Après, est-ce qu'il pourra être titulaire? Ça, je ne sais pas. Je ne pense peut-être pas pour le moment. Mais en tout cas, il a toutes ses chances pour pouvoir intégrer l'effectif et apporter ce qu'il sait de faire de mieux, c'est-à-dire par ses courses, c'est-à-dire par ses passes qui peuvent parfois être cassantes. On a vu certains moments, des passes décisives l'année dernière qui ont été très, très belles. Et puis aussi des buts, puisque l'année dernière, il nous a aidés à certains moments avec des buts importants. Donc, pour moi, il y a de quoi avoir la confiance et de tirer le groupe vers le haut. Donc, pour moi, Ruiz en premier remplaçant au milieu de terrain, oui, pourquoi pas.
Bah, Rico, du coup, vas-y.
Ouais, mais je suis d'accord avec ce qui s'est dit. Pour moi, c'est aussi le premier choix en sortie de banc. Faute de mieux, malheureusement, ben, t'as que Ruiz et Soler, je crois. Donc, bon, ben, tu dois faire avec ça. Après, je suis d'accord avec Lolo surtout. C'est vrai que l'année dernière, c'est compliqué de juger Fabian comme de juger les autres, comme Vitinha, par exemple. Parce que voilà, le contexte est totalement différent. Aujourd'hui, le contexte a totalement changé et forcément, les joueurs sont dans de meilleures conditions, comprennent bien mieux ce qui est mis en place, les consignes, l'équipe tourne mieux. Ils se sentent aussi, je pense, tous concernés. Il y a beaucoup plus de turnover, je pense, et il y en aura encore plus à l'avenir parce que là, bon, on pose les bases, etc. Les joueurs font des bons matchs, donc c'est compliqué de les sortir. Mais il va y avoir des blessures, il va y avoir l'enchaînement des matchs et on va le voir déjà, je pense, face à Nice. Ça ne m'étonnerait pas de voir un Danilo titulaire, par exemple, peut-être même un Ruiz au milieu. Bref, il va y avoir quand même du turnover. Et du coup, je pense que Ruiz va avoir quand même pas mal de temps de jeu, va pouvoir peut-être avoir une carte à jouer pour être titulaire aussi, ça on verra, mais en tout cas, son début de saison, il est intéressant. À chaque fois qu'il rentre, il est bon, là avec l'Espagne, il est bon. Et puis surtout, il a la particularité de pouvoir dépanner dans les trois postes du milieu de terrain, en 6, en 8, peut-être même 8-10. Après, c'est vrai que j'ai vu dans le chat qu'il est lent, mais là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'il a quand même l'intelligence dans ses déplacements, il est souvent en mouvement et ça compense. Il a toujours, on va dire, un petit train d'avance qui fait que du coup, ça compense un petit peu. Il a une belle vision de jeu. Et puis, on l'a vu aussi à un moment donné, dépanner ailier gauche. Donc, par exemple, à la place de Vitinha, il rentrerait parfaitement dans les consignes de Luis Enrique. Donc, ouais, non, je pense que Fabian Ruiz a une carte à jouer. Il ne faut pas l'enterrer. Pour l'instant, il fait un bon début de saison. Et puis, on verra quand il jouera avec le PSG, s'il est titulaire ou pas. Mais je pense qu'il peut faire quand même une bonne saison. Et dans tous les cas, faute de mieux sur le banc, faute de mieux même dans les titulaires, parce qu'on n'a pas non plus des cadors au milieu. Je pense qu'il aura pas mal de temps de jeu. Donc, après, ce sera à lui de faire le nécessaire. Mais je pense que dans un meilleur contexte, il donnera la plénitude de son talent, je pense.
Ouais, et pour continuer aussi par rapport à ce que tu disais, tonton, c'est que comme toi, tu étais très à cheval en disant la concurrence et le mot de Unai Emery, même tellement la saison, par exemple, me hype et que j'ai envie de voir certains joueurs dans un contexte un peu plus meilleur avec une stratégie de jeu, ce genre de choses-là. J'ai même envie de voir ce que peut donner un Soler qui peut être en pleine possession de ses moyens et qui connaît un Luis Enrique, qui sait la tactique espagnole. Qui ne sera pas mis à la place d'un Messi en étant ailier droit et qui sera intégré au milieu de terrain, ce qu'il faisait vraiment quand il était à son poste à Valence, de voir aussi un Cherendour qui est jeune, qui a du temps pour apprendre, ça rajoute de la qualité. Il est grand, physiquement, il va s'adapter à la Ligue 1, c'est pas un problème, mais c'est pas un souci. Maintenant, il faut lui donner de la confiance. Donc même tout ça, j'ai envie de le voir. Qu'est-ce que ça peut donner dans un PSG qui va bien marcher, qui va bien fonctionner, et on verra, tu vois.
Bon, voilà, justement, tu vois, pour répondre à cette problématique, Fabian Ruiz, en ce qui me concerne, je vois son rôle au PSG de la même manière que celui de l'Espagne. C'est-à-dire que je pense qu'il ne sera pas forcément titulaire. Cependant, dès que tu auras un absent, c'est le premier qui sera appelé. Quand tu vois en Espagne, justement, bah, pourquoi il a joué contre la Géorgie, Pedri est absent, qui est appelé, Fabian Ruiz joue. L'an dernier, il manquait Pedri à la même période de l'année où Gavi, l'un des deux, c'est lui qui joue la Ligue des Nations contre la Croatie. Donc, je pense que actuellement, et ça peut changer, hein, parce que Lolo, tu le dis très très bien, la concurrence, ça peut être amené à changer. Mais dans l'état actuel des choses, j'ai l'impression que justement, Fabian Ruiz, bah, il peut être le remplaçant d'Ugarte, il peut être le remplaçant de Zaïre Emery, il peut être le remplaçant de Vitinha. Et pour cette raison, justement, ben, il va être un peu celui qu'on appelle le 12e homme dans une équipe. C'est-à-dire celui qui ne sera pas titulaire au début du match, mais qui aura un temps de jeu conséquent à la fin de saison, parce que bah, c'est le premier à rentrer. C'est un peu le rôle qu'avait Warren l'an dernier aussi, au passage. Donc je pense que Fabian peut tout à fait prendre ce rôle, surtout dans une équipe qui tourne un peu mieux. Et pour Soler, parce que je vois que ça en a... Excusez-moi, parlez un peu dans le chat. Carlos Soler, il faut rappeler quand même, pour ceux qui connaissent un peu le foot espagnol, quand il avait 18 ans, 19 ans, t'avais le Barça et le Real qui se bastonnaient pour essayer de le récupérer à tout prix. Manque de peau, ça ne s'est pas fait pour lui et je pense qu'il a mal digéré ce transfert avorté. Il devait d'ailleurs aller au Barça l'été où il nous rejoint parce que le Barça a cherché à faire partir De Jong et son gros salaire et faire venir Carlos Soler à sa place. Donc le joueur à la base est censé avoir du potentiel. Quel est le vrai profil de Carlos Soler? Ça tombe bien, c'est le profil qu'on cherche en fait à la base. Carlos Soler, c'est justement un meneur de jeu. C'est-à-dire, moi je le mettrai pas sur l'aile parce que déjà il y a énormément de concurrence à ses postes et qu'il n'a pas le volume physique pour jouer à ce poste. Quand tu le compares à Dembélé, Kylian Mbappé et Barcola, j'aimerais bien voir une course de sprint entre les quatre. Je pense que le résultat sera très très drôle. Donc tu ne peux pas demander à Soler d'avoir ce profil. Ce n'est pas ce profil. Soler, c'est un meneur de jeu. Donc du coup, la question c'est Est-ce que Luis Enrique va réussir à le remettre à l'endroit et en faire un joueur qui va lutter pour la concurrence? Parce que quand on parle de cette concurrence, il y a d'autres joueurs qu'on n'a même pas évoqués qui font partie de ce milieu de terrain, qu'on le veuille ou non. Édouard Michu n'a pas été vendu. Julian Draxler n'a pas été vendu. Donc, alors oui, bien sûr, ça, ils partent de très très loin, Basto. Je ne dis pas le contraire, mais à un moment, si tout le monde se blesse, ils seront obligés de jouer. On ne les a pas vendus. Donc, toute façon, ça va surtout dépendre de comment Luis Enrique arrive au final à faire progresser son groupe et à tirer le meilleur de ses joueurs. Parce que s'il arrive à en tirer le meilleur, même un Carlos Soler peut redevenir intéressant. Tu voulais rajouter quelque chose, Rico?
Bah, la différence avec Carlos Soler, c'est pas forcément lui faire confiance ou pas, ou son niveau ou pas. Je pense que c'est aussi surtout par rapport à l'adversaire. Ruiz, par exemple, comme on a dit, il peut jouer dans les trois postes du milieu et face à n'importe quel adversaire, on va dire. Alors que Soler, c'est un peu différent. Je pense que Soler, tu peux bien l'utiliser et il peut te faire une bonne prestation en jouant un adversaire, par exemple, comme Dortmund, qui joue assez haut, qui laisse des espaces pour trouver des bonnes passes, etc., avoir un peu plus de temps. Je pense que Soler peut te livrer vraiment une bonne prestation. Par contre, contre un bloc bas en Ligue 1, là, Soler, je pense qu'il va complètement galérer, il va toucher trois ballons et voilà, tu vois. Donc, je pense que ça dépend aussi beaucoup de l'adversaire que tu vas jouer, sachant qu'en plus, ce n'est pas le premier choix. Bon, la saison s'annonce quand même un peu plus compliquée pour lui, mais suivant les adversaires que tu peux jouer, il peut faire un bon match.
Parce qu'en plus, c'est marrant que tu évoques Dortmund, parce que bah, pour le coup, bah, pour ceux qui savent, je le suis la Bundesliga, t'as vu, donc je vois un peu leur parcours. Dortmund, c'est pas en forme en plus, quoi. Là, ils viennent d'affronter Heidenheim, qui veut littéralement dire la maison des gentils en allemand. Les mecs, ils ont même pas ramené 3 points de là-bas, alors que c'est un promu. Edin Terzic est plus que sur la sellette, parce que bah, le message ne passe plus entre le coach et les joueurs. Ils sont en train de réfléchir à essayer de faire Julian Nagelsmann, mais je leur souhaite bonne chance pour arriver à la tirer dans ce bourbier. Moi, ce que j'en pense, c'est que Dortmund est un peu en crise. Ça tombe bien d'ailleurs pour ceux qui suivent ma chaîne, je vais parler de la Bundesliga et du futur classement à venir, restez connectés. Mais je pense que oui, justement, quand tu disais Ricoba par rapport à Soler, je pense qu'il a plus de cartes à jouer contre une équipe comme Dortmund que contre le bon bloc de Ligue 1 bien pâté cornichon dans la baguette le dimanche matin. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, on va pas l'enlever. Mais je pense que tout simplement, on va être fixé sur cette saison. C'est-à-dire que bah, il a eu droit à sa saison d'adaptation. T'as le droit de te la rater, hein. Il y a beaucoup de joueurs qui ont besoin de au moins une saison pour s'adapter dans leur club. Je vous invite à voir Jack Grealish indispensable à Manchester City et je vous invite à revoir sa première saison moisie, parce que c'est littéralement le cas. Donc je te dis pas Carlos Soler va devenir Jack Grealish, hein, au cas où, parce que j'ai pas envie qu'on m'associe à ça et qu'on dise regardez ce que tonton il a dit. Cependant, tu peux faire quelque chose d'intéressant selon comment tu l'incorpores. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, Rico. Ouais.
Ah,
Mais
c'est
je
pour
vous.
ça.
Vas-y,
Et après,
Lolo, je te laisse.
c'est pour ça aussi le rôle. C'est quel rôle on donne à tes joueurs, dans quel système de jeu, à quel poste, qu'est-ce que tu vas demander à ton joueur, face à quel bloc, quelle adversité. En fait, tout ça rentre en compte pour que ton joueur puisse être en confiance. Pour moi-même, je pense que la question, Rico, je pense que un Solaire face à un bloc bas, on l'a pas vu à un poste d'animateur de jeu. On l'a vu dans un poste où il devait l'animer sur un côté en faisant de la percussion. Et moi, je n'ai
Même faux
pas
neuf.
vu, ouais, ou même faux neuf. Et moi, ce n'est pas ce que je veux voir. Je veux voir un Solaire qui, au milieu de terrain, va essayer de venir récupérer des ballons, à peut-être l'amener et donner, faire le lien entre ton milieu et ton attaque. Là où l'année dernière, on lui disait, bah tiens, mets-toi sur le côté, essaye de dynamiter un petit peu la chose, et puis on verra ce que ça donne. Sauf que ce n'est pas du tout ce jeu-là, et on ne voit plus, aujourd'hui, on ne voit même plus dans les plus gros clubs. C'est toujours des
En fait,
mecs sur le côté avec des flèches, et puis voilà, tu vois.
alors, désolé de te couper, je t'avoue que j'ai du mal à comprendre dans le sens où sous Galtier, ok. Il ne comprend pas.
Oui, non.
Frangin?
C'est ce que je peux.
Ouais, vas-y, parce qu'ils se comprennent. J'allais dire. Luis
Non, en fait,
Enrique,
il y
il
a
a quand
des.
même été le sélectionneur de Carlos Soler, il a su l'utiliser en sélection. Donc
Oui,
je
bah.
pense que là, pour le coup, l'argument, il tient pas, quoi.
En fait, il y a des joueurs. Il y a des joueurs quand il n'y a pas de système ou de consigne claire comme l'année dernière avec Galtier, qui sont incapables d'avoir de la personnalité pour être performants. Les Ruiz, les Vitinha, les Soler en font partie, les trois. Par contre, c'est des joueurs de système. C'est-à-dire quand il y a des consignes claires avec des joueurs qui sont positionnés exactement où ils savent. Eux, ils savent quoi faire. Donc, ils seront jugés beaucoup plus facilement cette année avec des consignes qui sont limpides et avec une tactique claire que l'année dernière, ça c'est sûr. Il y a des joueurs de système, il y a des joueurs qui sont des joueurs extraordinaires, quoi qu'il arrive, et qui n'ont pas besoin d'avoir un système pour briller. Ce n'est pas le cas de Solaire ni de Ruiz.
Tiens, tant qu'on y est, j'allais dire, c'est le moment chat avant que je lance le dernier sujet. Cette question, elle est pour toi, Basto. Vu comme tu nous en parles à chaque fois dans le groupe, qu'est-ce que t'en penses?
On en a déjà parlé au dernier live ce week-end, mais oui, il y a une surresponsabilité des supporters, je trouve. On le met trop actuellement. Sur responsabilité des médias, c'est sûr, on en parle tous les jours. Et sur responsabilité même des acteurs du foot, avec les petites phrases de Deschamps, Henri qui le met capitaine, etc. Mais ça, on en a parlé samedi plus en détail, donc si les gens veulent revoir cette partie-là. Mais oui, je pense qu'il faut le laisser un peu tranquille et continuer à grandir.
Bah écoute, ouais, je vois aussi que malheureusement, comme vous l'avez dit, Marco Verratti est bien arrivé du côté du Qatar, hein, c'est confirmé.
Il a l'air vachement content d'ailleurs. Hein. Oh, la gueule qui tire, mon pote.
Non, j'allais dire, non, franchement, merci pour tout, Marco, hein, parce que franchement, il est resté 10 ans au club. Hein, c'est le deuxième joueur le plus capé de l'histoire derrière Pilorger, il faut le rappeler quand même. Il aurait pu battre ce record s'il était resté jusqu'au bout de son contrat. Quand même,
franchement, il m'a fait de la peine, hein, sur sa vidéo, c'est vrai qu'il a l'air dépressif, le pauvre.
Après, je pense qu'en même temps, regarde, bah, si on remet les choses dans leur contexte, on parle d'un mec qu'on a empêché d'aller au Barça en 2017, on le laisse filer, on le fout à la porte, et le seul club qui veut bien l'accueillir, c'est soit en Arabie Saoudite, soit au Qatar.
Il fait son interview en français, là, et il dit « je suis très, 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 très excité de découvrir les nouveaux supporters ».
Bah ouais, tu vois, genre, il est respectueux, mais c'est normal. Non, mais il est respectueux, tu vois, mais après, c'est… Frangin, je veux dire, je pense que lui, il s'imaginait partir autre part. Genre,
il va rester moi, honnêtement, au Qatar, non ?
Moi, très honnêtement, oui, je pensais qu'en fait, s'il quittait le PSG, ça aurait été genre pour retourner à Pescara. Tu vois, genre, moi, je le voyais comme ça, en mode, il partait à la fin de son contrat, ou il s'arrangeait un an à la fin de son contrat, il rejoignait Pescara, il revenait dans son club des débuts, tu vois, mais je m'attendais clairement pas à ce qu'il filait au Qatar, et encore moins à cet âge-là, tu vois.
Ouais, mais
donc, je peux entendre aussi l'étonnement du joueur, quoi.
Salaire, est-ce que pour lui, il se considère à la fin de sa carrière ? Je suis pas sûr. Pescara, ce serait un peu le. Fermer la boucle.
Ça ne m'étonnerait pas qu'il ait négocié une porte de sortie dans un an avec le club du Qatar avec une facilité à la revente. Hein.
Est-ce qu'il y a une cérémonie pour Marco ? Bah, moi, je t'avoue que j'en sais rien et je ne vais pas faire
oui,
semblant.
Apparemment,
apparemment, il est censé y en avoir une, mais je pense que ça va être comme Mathieu dit. C'est-à-dire, je pense que ça va être comme Mathieu dit, c'est-à-dire ce ne sera pas forcément tout de suite, mais il va revenir d'ici peu, genre un ou deux mois, et on va aller faire un truc au stade. Je pense que c'est le truc le plus possible. Mais après, on verra.
On verra
ouais. Il y a eu des oui et des non. Il y en a qui ont annoncé que non. Après, ils ont annoncé que oui. J'ai vu Abdellah Boulma, un truc comme ça, qui a dit que finalement, oui, il y en aurait une.
Mais après, le problème, c'est ça. C'est la question, quand tu la poses, c'est est-ce qu'il va y avoir un truc ? En fait, ça pose pas de question de est-ce qu'il va y avoir une durée dans le temps pour ça ? Parce que les gens, en général, quand le joueur part, ils s'attendent à ce qu'il y ait la cérémonie tout de suite. Et c'est logique. Il y a des gens qui s'attendaient même à ce qu'il fasse ses adieux au parc avec 10 minutes avant de partir. Mais. On a déjà vu par le passé avec Blaise Matuidi. Hein. Blaise Matuidi était revenu 2-3 mois après, il me semble, et il était revenu au stade et il avait eu vraiment son hommage, son merci pour tout Blaise. Ça n'empêche pas.
Non, mais il y aura quelque chose, je pense. Hein. Ça reste une légende du club. Je pense qu'ils vont faire quelque chose pour lui. Je ne peux pas croire qu'il fasse rien et qu'il parte comme un voleur comme Messi et Neymar. Ce n'est pas possible.
Non, mais après, ça dépendra aussi de la volonté du joueur. Peut-être que le joueur aussi a voulu faire une coupure, parce que Ace Media le dit très très bien, et Kitike et Draxler n'ont pas voulu partir et ils sont encore là. Verratti, s'il est parti, il a quand même eu son mot à dire. Je pense qu'en fait, justement, Marco, il en avait marre du climat qu'il y avait vis-à-vis de lui, tout ça, et je pense qu'il préférait partir pour être tranquille plutôt que de rester, que ce soit la foudre pour lui, en fait.
Moi, je pense qu'il voulait pas partir. Hein. Moi, je pense qu'il voulait vraiment pas partir.
Hein. On l'a poussé
vers la sortie, on lui a dit « tu joueras plus, tu dois partir » et terminé, on l'a mis dans le même sac que certains autres. Et du coup, bah, il a dû partir, quoi. Il a eu trop de pression et bah, du coup, il a dû partir, je pense. Hein.
Peut-être qu'il a fait aussi une connerie, peut-être, on ne sait pas. Hein.
Bah, c'est ce que j'allais dire, je te jure qu'avec ma copine, on a le raisonnement parce qu'on se dit « attends, le mec, c'est le chouchou de Nasser depuis je ne sais pas combien de temps. Le mec, il vient de prolonger il y a 5 mois jusqu'à la fin de sa carrière. Hein, » Parce que genre le contrat, on l'avait fait en mode « t'inquiète, t'es refait c'est jusqu'à la fin de ta carrière, on t'a sécure. » Même moi, au moment où il prolonge, dans ma tête, j'étais en mode « Attends, on le prolonge au moment où il fait sa pire saison au PSG. » Parce qu'il faut le dire, hein, c'est sa pire saison au PSG. Hein, parce que si tu respectes le joueur, toutes les autres saisons, elles sont meilleures. On le prolonge à ce moment-là jusqu'à la fin de sa carrière. Moi, j'étais en mode « Bon, bah, il partira pas. » Et là, moins de 6 mois après, il est dégagé, mais comme un malpropre. Même pas, il a 10 minutes de temps de jeu. Moi, je pense qu'il y a quelque chose entre Nasser et Marco Verratti. On le saura peut-être jamais, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à ce que ça fuite. C'est logique, le club, ils ne vont pas faire fuiter une info comme quoi Nasser s'embrouille avec Marco Verratti, c'est normal. Mais il y a peut-être quelque chose qu'on ne sait pas. Et moi, comme je ne suis pas dans les insides, je ne vais pas commencer à émettre des théories, mais je me pose des questions. Je ne le cache pas.
Peut-être ramener des clubs dans le vestiaire, je ne sais pas. C'est un trafic.
Non, mais après... Comme dit Franck, mais c'est peut-être tout à fait possible. Tu vois, peut-être que c'est Luis Enrique qui s'est dit ben, Marco Verratti, en termes de profil de jeu et de volume physique, il ne correspond pas à ce que je recherche. Donc, je préfère le vendre. Voilà, après, ben, le problème, c'est qu'avec ce qui s'est passé, ben, c'est la porte ouverte à tous les fantasmes. On ne va pas se mentir. Je veux dire, Ouais, j'avoue, fais gaffe, Lolo, il y a deux mecs derrière toi et en plus, ils ont un sale caractère, les deux. Hein. T'as pas choisi les deux plus cool.
Je les changerai les prochaines fois, je les change.
La prochaine fois, tu vois, il dit ça, mais la prochaine fois, ça va être Manuel Ugarte derrière lui, ça sera encore pire niveau pressing.
C'est chiant. C'est chiant.
Mais il nous reste un dernier petit sujet à aborder avant de faire le fameux question-réponse qu'on a sur le chat. La dernière question, justement. Ah, reste là. Ah non, excuse-moi, il restait deux sujets. Il y en avait un que j'avais pas vu qui était tout en bas. Sur une échelle de 1 à 10, quelle gravité donnerez-vous à la stat des milieux de terrain qui font progresser plus ou moins le jeu là, la fameuse...
Emery, Vitinha et Ugarte qui sont dans le graphique bas, c'est-à-dire qu'ils font peu de passes vers l'avant dans ce graphique en tout cas.
Exactement.
C'est ça. Et aussi à savoir que la stat, comme tu le disais, était sortie en fin d'année, non, début de cette année ou fin d'année dernière par rapport à ce qu'on avait.
C'est sorti cette année, mais c'est sur tous les matchs à partir de la saison 2022-2023. Donc c'est sur les matchs de cette année plus les matchs de la saison dernière.
Voilà, donc dans un principe où tu avais un Neymar et un Messi qui venaient te prendre le ballon dans les pieds de tes milieux de terrain, qui ne faisaient pas avancer tes milieux de terrain, qui faisaient que tes milieux de terrain étaient inefficaces, que ton milieu de terrain était archi faible, qui s'est fait éliminer contre Bayern, que tu as été nul contre Marseille.
Que tu avais Pep Galtier comme coach.
Que tu as été éclaté en fait. Donc au final, cette stat-là, j'aimerais bien qu'il la fasse à la fin de l'année et voir exactement qu'est-ce que ça va donner les courses de Warren, de Vitinha ou même de Ugarte, et là on va voir qu'ils sont peut-être pas, je sais pas, je dirais pas peut-être vers le top 3, mais s'ils sont déjà dans le top 10, moi déjà je suis bien, je pense que je vais pas trop m'avancer plus que ça.
Mais après voilà, je pense que, vas-y Rico, je te laisse terminer à part si t'es occupé, et après moi je donnerai mon avis sur cette stat.
Non, j'ai le graphique devant les yeux, bon déjà comme l'a dit Lolo, ouais, pour moi c'est biaisé, parce que tu prends la plupart des matchs de l'année dernière du coup, et c'était pas du tout la même équipe, les mêmes joueurs, les mêmes consignes, et c'est vrai que oui, il y avait Messi et Neymar, et déjà, quand tu as des jeunes comme Vitinha Emery, ce n'est pas évident, mais on peut voir même avec Verratti. Verratti se contentait de donner le ballon et puis c'est tout. Donc, on voit bien que oui, c'était complètement différent. Alors après, on voit Ugarte qui est tout en bas. Pour le coup, Ugarte, ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas le joueur qui va te casser les lignes, qui fera les passes vers l'avant ou quoi, même s'il sait le faire. Et par moments, on l'a vu le faire très bien. Mais c'est plutôt ses courses qui fera vers l'avant. Pour Zaha Emery, c'est un peu pareil aussi. On le voit souvent se projeter, faire la course vers l'avant, même avec le ballon. Percuter, mais pas forcément faire la passe vers l'avant. C'est pas le joueur qui est réputé pour avoir le plus de vista. Maintenant, je pense qu'il peut progresser à ce niveau-là. Mais surtout, il y a eu très peu de temps de jeu et tout. Je pense qu'on pourra juger au milieu de la saison, peut-être. Et pour Vitinha, il y a eu une première partie de saison où il était dans ce double pivot, où ça marchait bien, où il se projetait pas mal aussi balle au pied et il trouvait des bonnes passes. Mais par contre, on voit quand même qu'il y a une certaine limite. On le voit aussi cette saison au niveau de ses choix, déjà il y a beaucoup de choix qui sont mauvais, après il n'y a pas forcément de passe vers l'avant non plus, donc Vitinha on l'a déjà observé, après faut voir son évolution, faut voir les consignes qu'il a aussi, parce que c'est peut-être pas lui qui doit casser ses lignes, etc., mais après c'est aussi les profils des joueurs, et c'est peut-être pour ça du coup qu'on mettra un Kang In-Lee dans ce milieu de terrain qui a une meilleure capacité de passe et une meilleure vision. Donc on verra, mais pour moi, ce graphique, il est quand même un peu biaisé par rapport à la période où tu prends les stats, quoi.
Et
vas-y, j'allais y aller, mais vas-y, Vasso.
De toute façon, je pense que l'impression visuelle est plus importante que celle d'un graphe comme ça. Ouais. Ce qu'on peut dire sur ce début d'année, sur ce milieu, c'est que oui, Ugarte, de toute façon, on sait que c'est pas son profil de faire la passe vers l'avant, mais étrangement, et c'est ce qui vient un peu, c'est peut-être celui qui a fait le plus de passes clés dans ce trio. Vitinha, comme l'a dit Rekoba, il y a certaines situations qui lient mal où il n'ose pas alors qu'il a la capacité de le faire, et Emery je le trouve encore beaucoup trop neutre avec ballon, donc il faut une progression pour Vitinha et Emery dans ce sens là et Ugarte on sait que ce ne sera pas le cas, mais quand il y a des bonnes passes à faire, il arrive à en faire une ou deux par match, hein, notamment cette contre Lyon pour le troisième but.
Alors moi, pour répondre justement à cette question et ce graphique...
C'est aussi la personnalité, juste pour finir, deux secondes, parce que quand je vois les noms, c'est aussi la personnalité des joueurs, parce que finalement, quand tu regardes les mecs qui sont devant...
Il y a Casemiro.
Tu vois du Casemiro, alors que c'est pas forcément le joueur, tu vois, qui
est réputé pour ça, mais... Attends, t'es en train de me voler mon argument, là.
Ah, pardon. Vas-y, je t'en...
Si tu regardes attentivement ce graphique, ça tombe bien, tu l'as sous les yeux, Rekoba, regarde le positionnement de Gastien, regarde celui de Szoboszlai.
Oui.
Mais Gastien est un super joueur, hein.
Maintenant, tu compares leur rapport dans le jeu offensif et tu vas me comparer leurs stats, notamment passes décisives et buts, et on verra lequel des deux est plus utile. Donc, tu vois, au final, ce graphique, tu peux lui faire dire ce que tu veux. Le problème, c'est que c'est un graphique qui est très isolé et qui ne met pas en avant les autres et compétences et les autres domaines de jeu.
Johan Gastien, c'est vraiment contre qui,
pourquoi Casemiro et Bruno Fernandes sont les premiers de ce graphique? Parce qu'ils jouent bas sur le terrain et leur rôle est littéralement d'envoyer des chandelles en profondeur pour leurs attaquants.
Pareil pour Kroos, ouais.
Donc à un moment, forcément, leur pourcentage de balles vers l'avant sera plus élevé. Marco Verratti a passé sa saison dernière à contrôler le ballon et le donner à Léo Messi plus haut sur le terrain. Ses passes sont-elles plus dangereuses que celles de Dominique Szoboszlai?
Ouais, je ne pense pas. Encore une fois, attention, ne critique pas mon Gastien. Gastien, c'est un joueur qui ne joue pas long, c'est un joueur qui fait progresser le ballon, qui a une technique assez soyeuse, et c'est vraiment le métronome de Clermont.
Le compare pas à mon Szoboszlai, par contre.
Ah non, mais
j'ai très gentil, tu vois, Szoboszlai, et genre, je vais même pas être méprisant en disant.
Moi, je vous laisse Szoboszlai au PSG avant qu'il signe, bien avant Liverpool déjà. Donc,
Szoboszlai, ma propagande aussi. Allez, ces matchs du côté de Liverpool.
Et dans le graphe, on voit Rodri aussi qui est assez bas, alors que.
Ben oui, parce que Rodri, lui, il ne fait pas les passes, il se projette avec le ballon. Donc, ouais, tu vois, encore une fois, c'est quelle utilisation tu as du joueur et c'est quoi les autres stats? Parce que si tu ne mets que cette stat-là et que tu l'isoles, ben c'est quand même assez moche.
Et qu'au final, en fait, tu ne fais pas forcément une. C'est une stat tapine, c'est un truc où tu mets tous les milieux dans le même sac, sauf que tu ne compares vraiment pas, tu ne sais même pas sur quelle compétition tu compares. Encore si tu me dis, tu me sors un graphique comme ça en Ligue des Champions, je te dis, OK, on sait déjà le type de compétition qui est très élevé. Et après, tu mets une certaine catégorie de joueurs. Mais là, c'est comme si tu mettais, je ne sais pas, un Mbappé avec un, je sais pas, un mec de Ligue 1, et tu dis, regarde, Coupe du Monde plus Ligue des Champions, tout des trucs. Mbappé, il est trois fois plus fort que lui. Bah, c'est logique.
Après, c'est un.
Les oranges et les poires, tu vois. C'est...
Non, mais ouais, le problème de ce graphique, c'est que tu as du 6, tu as du 8, tu as du 10. Après, moi, ce que je regarde surtout, c'est, on va dire, le même poste que Zaire Emery et Vitinha. Bon, bah, on voit, tu as du Barella, tu as du Bellingham, tu as du De Bruyne qui sont très, très hauts. Guimarães, Odegaard. C'est des joueurs qui jouent plus haut, mais qui prennent plus de risques. C'est une question aussi de personnalité. De caractère, et ils prennent plus de risques, ils font plus de passes vers l'avant aussi. Et c'est surtout ça qu'il faut comparer, exactement, et c'est surtout ça qu'ils font comparer, je pense, avec Vitinha et Zaire Emery. Et forcément, avec leur âge et la marge de progression, tu vois que ils doivent encore progresser là-dessus. Quoi.
On se donne rendez-vous dans un an sur le même graphique, tu verras comment il a évolué aussi. Mais vas-y, Bastos.
Je disais juste, oui, DataFoot, ce graphe ne rend pas vraiment hommage à son travail parce que souvent il fait des.
Oui, il fait des très bons tafs. Hein.
Comparatifs qui prennent tout en compte et très explicatif. Très explicatif, donc, c'est pas ce graphe-là. Je crois que ce graphe était une demande des gens dans les messages et donc, du coup, il l'a sorti.
C'est
mais généralement, il fait des choses très bien expliquées. Et très
non, mais bien sûr, tu as bien fait de mettre un petit disclaimer là-dessus. Bah, DataFoot et DataScoot, c'est de pas sur Twitter pour ceux que ça intéresse. Vraiment, ils font des comparatifs en utilisant la data, c'est même pertinent. Après, oui, ils font un peu aussi l'opium du peuple. C'est-à-dire que des fois, on va leur demander est-ce que tu peux me sortir cette stat? Et ils vont taffer, ils vont être sympas, ils vont te la ressortir. Là, je pense que oui, là, tu étais clairement sur la réponse à une demande, tu vois. Et comme j'ai dit, les stats, en vrai, faut prendre ça comme un outil. Si tu prends les stats comme une finalité, tu vas pas t'en sortir. Tu vas être complètement faussé. Les stats, ça doit être un outil que tu dois utiliser pertinemment dans le bon contexte. Parce que là, comme je l'ai dit, ta stat, là, sortie comme ça, tu vas me faire croire que Gastien, c'est un meilleur milieu de terrain que Szoboszlai. Et je suis très poli, là. Et franchement, je suis très gentil. Je vais même pas être irrespectueux. Je vais poser... Vous savez quoi? Je vais laisser Gastien, père et fils, répondre eux-mêmes à la question. Est-ce que Gastien est un milieu plus performant et crédible que Szoboszlai? Je pense pas lui manquer de respect en posant la question, tu vois. Je pense que franchement, encore, je suis sympa. J'aurais pu être plus méchant dans le tac, tu vois. Donc, c'est son graphique, ok, mais si tu utilises cette stat, utilise-la de manière pertinente. Ne l'utilise pas comme une finalité en te disant waouh, notre trois milieux, ils sont en dessous de tous les autres. Ça, c'est une stat qu'il faut prendre en compte. Vous allez voir dans les matchs qui comptent en Ligue des Champions. Enfin, quand on va jouer Dortmund de Erdin Terzic qui est complètement en crise, là, tu seras bien contente que cette stat, elle serve à rien, tu vois, parce que leurs milieux, ils ont des meilleures stats que les nôtres. Mais.
Attention, d'ailleurs, moi, personnellement, moi, je prédis la petite fessée au parc.
Alors moi, je ne vais pas commencer à rentrer là-dedans parce que tu connais, il y a toujours les équipes en crise qui aiment bien se mettre en valeur en Ligue des Champions. Mais, le B4B n'est clairement pas dans la chance de sa vie. Donc, va falloir arrêter de...
Là, non.
Voilà. Mais justement, regarde, là, il y a ce sujet, il revient pas mal dans le chat et ça tombe bien parce que c'est le dernier sujet de ce live. Justement, c'était un commentaire qui revenait pas mal dans nos vidéos récemment et où nous demandait justement... Alors, attendez que je revienne justement sur l'image.
Et vous avez vu dans le chat, il a dit 4 fois justement en 3 minutes.
Ah non, mais c'est pas le seul. Mais justement, c'était une question de Wilfried Boukala, 79-18. Comme ça, il se reconnaîtra à un moment. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Petite pique. Mais le rôle que pourrait jouer Xavi Simons l'année prochaine, quel rôle il pourrait jouer? Et justement, je vais lui rendre hommage. C'est moi qui vais répondre en premier parce que je me tape les matchs de Leipzig. Et pour une fois, j'ai envie de prendre la parole en premier. J'ai envie d'être impoli. Xavi Simons. Ouais, dictateur, exactement. Et si vous n'êtes pas content, je vous retire tous de la diffusion et je finis tout seul. Non, blague à part. Xavi Simons, justement, tu fais bien de poser la question parce que quand il arrive à Leipzig, au début, Leipzig joue dans un 4-2-2 et il a un rôle de milieu offensif excentré à droite. Seulement, Leipzig, depuis deux matchs, retourne à un 4-3-3. Et justement, Xavi Simons joue exactement à ce rôle-là dont on a besoin, c'est-à-dire qu'il joue dans le milieu à 3, à côté de Campbell et Schlager. Et les deux... Bah, c'est des 6 et des 8. Donc du coup, lui, on lui confie vraiment d'être le milieu plus offensif des 3 qui doit avoir un apport, doit faire le lien entre le milieu et l'attaque. Ce milieu qu'on a d'ailleurs cherché à recruter cet été, qu'on n'a pas réussi à recruter. Justement, Xavi Simons correspond totalement à ce profil. Donc à voir comment il se développe au fur et à mesure de la saison, parce que c'est quand même important à souligner. Il a quand même fait un match qui n'était pas très très bon contre le Bayer Leverkusen, mais... Personne n'a été très performant du côté de Leipzig contre les Leverkusen. Hein. Vraiment, ça a été une leçon tactique. Mais selon comment, justement, ça se développe, il y a possibilité que Xavi Simons se développe totalement à ce rôle au fur et à mesure de la saison, qu'il explose d'ailleurs à ce rôle. Mais bon, je dis ça comme si c'était le seul joueur intéressant de cette équipe. Il y en a aussi plein d'autres, mais je vais laisser la parole aux autres pour qu'ils s'expriment aussi sur le sujet. Vas-y, Basto.
Déjà, je pense qu'il y en a qui râlent parce qu'il n'est pas resté cette année. Je pense que c'est très bien pour son développement qu'il aille à Leipzig, qu'il soit un joueur clé de cette équipe et qu'il revienne ensuite à Paris comme un joueur un peu plus complet après avoir eu ses transitions à Eindhoven et Leipzig. Donc ça a été très bien géré par le club. Maintenant, comment je le vois ? Ouais, dans un rôle de milieu. Après, les gens disent direct à la place de Vitinha. Mais un milieu Simon Semeri, par exemple, est-ce qu'on n'a pas deux joueurs qui portent trop le ballon dans des courses balle au pied? Je ne sais pas, il faudra trouver un certain équilibre. Tu peux très bien avoir Simons positionné haut avec un Vitinha qui d'un coup serait plus bas. Enfin, il y a plusieurs solutions. Il faudra trouver la meilleure complémentarité, mais évidemment, Simons revient, il aura un rôle dans les 13-14 joueurs importants.
Alors justement... L'OVNI a peut-être fait le top commentaire de ce chat. Je vois qu'on est 242 en live, mais on n'a que 49 pouces. Vous avez le droit de mal référencer ça, mais c'est dommage, vous passez à côté de certaines choses intéressantes, notamment le flocage offert par l'équipe Paris Central au bout de 700 likes. Vous faites ce que vous voulez de cette information. Et d'ailleurs, on a passé la barre des 10 000 abonnés, donc c'est vrai qu'on avait dit qu'il y aurait une surprise. Restez connectés, elle ne devrait pas tarder à se mettre en place. On vous tient au courant rapidement. Lolo, du coup, je te laisse répondre à cette question, justement, toi aussi. Est-ce que pour toi, Xavi Simons peut avoir un rôle à jouer au PSG, notamment au milieu dès l'année prochaine, ou est-ce que pour toi, pas forcément, pas ce poste ou pas au PSG?
Oui, il pourra jouer, il pourra donner un très très grand rôle au sein de l'effectif. Oui, pour moi, on aurait pu s'en servir cette année. Oui, pour moi, il a la qualité d'entrer dans une rotation. Oui, il peut passer à la place d'un Vitinha. C'est un joueur qui a la qualité technique, qui physiquement s'est adapté, ne serait-ce qu'à la Ligue 1. On l'a vu dans certaines entrées qu'il avait fait avec Pochettino à l'époque. On sait qu'il a le coffre, on sait qu'il est très bon tactiquement, qu'il a l'intelligence de jeu. On ne parle pas d'un joueur lambda, on parle d'un joueur qui était considéré à l'époque à la Masia comme un des mecs qui devait prendre le flambeau, comme pouvait le faire avec Pedri et Gavi. Pour moi, il a fait toutes ses crises pour pouvoir, intégrer cet effectif cette année. Maintenant, est-ce qu'on il s'était peut-être pas trop tôt? Oui, c'est aussi une bonne stratégie du club de l'avoir laissé, de pouvoir s'épanouir. L'Eurodivisie, c'est un bon championnat, mais ça reste peut-être un championnat qui reste encore à prouver, même si on sait que sur ces dernières années, il n'a rien à envier par rapport à la Ligue 1. Est-ce que le championnat d'Allemagne n'est peut-être pas l'étape supplémentaire qu'il lui fallait pour qu'il puisse prendre encore plus de coffres? Parce que j'ai vu, malgré les matchs de Leipzig, que... il se faisait pas mal rentrer dedans dans les matchs et quand même, je pense qu'il faut qu'il continue à progresser sur le domaine physique, à savoir tenir un petit peu plus les ballons, à pas trop se précipiter dans ses choix et ses derniers mouvements. Donc, ça sera quand même très intéressant à voir un Xavi Simons qui va continuer à prendre du galon. Cette année, je m'avance, je pense qu'il va faire sa petite dizaine de passes décisives et au moins sa peut-être dizaine de buts, il va faire un des deux. Et quitte à faire peut-être un double-double, ce serait exceptionnel et ce serait très très bien, et de récupérer après un Xavi Simons qui en totale confiance, qui reviendrait quasiment presque en tant que taulier, mais il reviendrait à la maison gratuit et facilement, il rentre dans l'effectif, il connaît le groupe. Pour moi, je le prends tous les jours et ce serait peut-être le joueur qui nous ferait peut-être pas passer un step, mais qui serait le chaînon manquant dans un système qui peut être très très décisif dans les années à venir, on va voir.
Ah, t'as levé le doigt. Qu'est-ce qu'il y a, Basto?
J'ai juste un petit coup de gueule à passer. contre certains gros sites parisiens sur Twitter sur la propagande qu'ils font sur le cas Simons sans regarder les matchs. Ils isolent notamment son action contre l'Irlande alors que Simons fait un mauvais match selon tous les médias néerlandais. Je ne l'ai pas vu, mais tout le monde était unanime pour dire qu'il ne fait pas un bon match. Ils isolent une action où il fait une action magnifique en mode ah, Simons, nanana. Et pareil en Allemagne, le match où il est très bon en deuxième mais moins bon en première que tu regardais, tonton. Ils n'expliquent pas ça, ils mettent que la vidéo du but ou que la vidéo de la passe. Et du coup, ils font passer Simons pour Zidane alors qu'on en est encore loin. Et là, c'est pas bon pour le joueur et c'est.
Basto. Basto, oui. Alors, on sait de toute façon qui regarde les matchs ou pas de Leipzig, parce qu'à partir du moment où tu regardes, où tu dis regarder Leipzig, tu parles de Xavi Simons, mais tu vois, mais t'es pas capable de dire que Dani Olmo est un crack, t'es pas capable de dire que Sesko, c'est la révélation de la saison qui va arriver. Bah, frangin, mens pas. Dis que tu regardes pas les matchs, dis que tu regardes des compiles, et ça va, tu vois. Mais à un moment, laisse les faire. On sait qui est qui, on sait qui regarde quel match. À un moment, quand tu isoles des joueurs d'une grande équipe qui, en plus, est peut-être le club le plus intéressant dans la post-formation en Europe actuellement, hein, parce que Leipzig, ça sort des talents à l'appel chaque année. Là, ils viennent de vendre Nkunku, Szoboszlai, Vardiol, et ils vont encore t'en sortir qui revendront l'été prochain encore plus cher. Et il y en a d'autres qui vont arriver que vous ne connaissez pas. Là, il y a Sesko cette année. C'est bien, vous parlez de Xavi Simons. Par contre, si vous parlez de Xavi Simons à Leipzig, vous êtes obligé de parler de Sesko, vous êtes obligé de parler d'Olmo. Vous êtes obligé également de parler de Openda qui a une finition catastrophique depuis qu'il arrive à Leipzig, qui rate des choses qu'il ne raterait pas à Lens. Mais comme tu dis, Basto, à un moment, tu vois qu'il regarde les matchs et qu'il ne les regarde pas. Mais j'ai laissé Rekoba parce qu'il a quand même été patient, il attendait pour répondre à la question. Est-ce que pour toi, Xavi Simons, il a un rôle à jouer dans ce PSG la saison prochaine au milieu ou autre part?
J'espère que la caméra ne va pas couper, mais ouais, non, c'est une belle transition avec ce que dit Basto, parce que moi, c'est mon avis là-dessus. Je trouve Xavi Simons très talentueux. Maintenant, il ne faut pas non plus se fier qu'aux statistiques. Stater aux Pays-Bas, stater même en Bundesliga, c'est plus évident que stater en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Moi, cette saison, j'attends de voir surtout ces matchs en Ligue des Champions et dans les gros matchs en Bundesliga, parce que je trouve également qu'il y a une énorme propagande sur Xavi Simons. Oui, il est talentueux, oui, il progresse à vitesse grand V. Maintenant, est-ce que, parce qu'on m'avait posé la question dans une autre vidéo où on me demandait est-ce que Xavi Simons pouvait, enfin, qu'il allait devenir le taulier du Paris Saint-Germain dans les futures années, moi, j'ai mis beaucoup de réserves là-dessus. J'attends de voir la suite de sa progression. C'est un super joueur pour l'instant qui peut rendre de très bons services à Leipzig, notamment au PSV Eindhoven, etc. Maintenant, dans un top club européen, je demande encore à voir. Alors évidemment, il est jeune, il a encore beaucoup de marge de progression, etc. Mais je trouve qu'on en fait énormément. On met beaucoup ses stats en avant alors qu'il est dans des équipes joueuses, dans des championnats où il y a énormément d'espace et où c'est facile de stater. Mais comme l'a dit Basto, même si moi, je ne regarde pas le contenu ni ce qui se dit sur les Pays-Bas, au final, ça ne m'étonne pas du tout ce qui se dit là. Donc j'attends de voir la suite, mais je pense qu'il faut y aller vraiment doucement avec Xavi Simons, un peu comme avec Zaïre Emery, mais ouais, pour moi il faut se calmer un petit peu, laisser progresser et voir ce que ça va donner, mais de là à le mettre déjà titulaire par exemple l'année prochaine au PSG, ouais, doucement je pense.
Bah, c'est que tu retombes dans tes travers, si tu dis il revient, il est titulaire, tu retombes dans tes travers de bah, c'est tel joueur, il a tel nom, donc du coup il a une place acquise, donc tu fais passer le nom avant la compétence. Tiens, ça me rappelle les pistonnés dans les entreprises, mais c'est un autre problème. Moi, ce que je pense juste, c'est oui, Xavi Simons, il a beaucoup de potentiel. C'est comme un Zaïre Emery. C'est des joueurs qui ont un vrai avenir au Paris Saint-Germain. Si et seulement si tu les gères bien. Si tu les gères mal, si tu commences à 16 ans à commencer à leur dire que le mec mérite d'être le capitaine de l'équipe de France Espoir, qu'il doit être titulaire et que c'est le nouveau Pedri, surtout quand on sait comment on est en France, je pense pas que t'aides le joueur à se développer, à devenir ce qu'il est censé devenir. Xavi Simons, s'il n'est pas titulaire chez nous, je comprends plus rien. Moi, ce que je te dis juste, Owen, moi, je regarde les matchs de Leipzig, tu vois. Déjà, Leipzig, tu vois, au début, c'était pas fameux dans le contenu. Et c'est pas parce qu'il stats que c'était bon. Parce que sinon, je vous reprends l'exemple de Carlos Soler l'an dernier, qui était capable de faire des copies minables, mais qui statait quand même. Donc, je te dis pas que Xavi Simons a fait le même type de prestation non plus. Hein. Restons mesurés. Il faut avoir de la nuance, c'est important.
Non, cependant, mais c'est le match par exemple contre l'Union. Il y en a beaucoup, en fait, il y en a beaucoup qui ont sorti les compiles.
Alors, l'Union, il a fait un bon match. C'est le match précédent.
C'était le match précédent, voilà, c'est ça.
C'est le match précédent, si tu veux, il y a 0-0, enfin, il y a 1-0 à la mi-temps, parce que Leipzig, c'est une équipe en diesel, c'est une équipe qui en première mi-temps ne marque pas. Ouais, voilà, c'est une équipe qui met des tartes à partir de la deuxième mi-temps, mais en première mi-temps, il ne marque pas. Et lors de ce match-là, Xavi Simons, comme tu dis, il avait fait des très bonnes stats. Si tu regardes pas le match, tu es en mode, ouais, Xavi Simons, homme du match. Bah non, mon pote.
Non, il était pas si fou que ça. Au contraire, il a fait beaucoup de choses et tout. Et après, au final, bon, il a fait le meilleur deuxième mi-temps. Ça a l'air un peu mieux. Et puis ça allait. Mais
contre l'Union, son match était carrément mieux, alors qu'il a des moins bonnes stats que le match précédent. Hein. C'est ça. Au final, c'est pas qu'une histoire de stats. C'est, enfin, comme j'ai dit, au final, la stat, c'est, faut savoir l'utiliser, c'est un outil, c'est pas une finalité. Et à un moment, il y a un contenu dans le match, les gars. Des fois, vous êtes les premiers à dire que vous n'aimez pas tel joueur parce que bon, il marque des buts, mais dans le contenu, c'est affreux. Au hasard, Haaland à Manchester City. Bah, à un moment, bah, cet argument, ça marche aussi avec les autres. C'est pas parce que le mec stat que le contenu a été forcément fameux. Il est bien entouré, le Simmons. Ben oui, c'est ça. Je veux dire, quand tu regardes, il joue dans un 4-3-3. Il y a Dani Olmo qui est meneur de jeu excentré. Il y a Louis Cependant qui est ailier droit, mais avec un rôle de buteur ailier. Il y a Poulsen qui joue parfaitement le rôle de pivot et qui peut être remplacé en cours de jeu par Sesko. Tu as même Werner qui peut jouer comme ailier gauche ou comme buteur. Non, non, il y a vraiment de quoi faire dans cette équipe au niveau offensif. Ouais. Et même défensivement, les mecs, ils ont recruté Doukeba et El Shaddai pour remplacer Gvardiol. Tu as Simakan qui commence un peu à émerger parce qu'il est quand même très irrégulier dans cette équipe. Il y a des choses à faire du côté de Leipzig. Xavi Simons, il a été intelligent, il a été dans un club où il sait qu'il va progresser et se faire développer, on va pas se mentir.
D'ailleurs, c'était sa condition. Hein. Je ne pense pas qu'il y avait le choix de le garder ou pas. Je pense que s'il re-signait au PSG, c'était directement partir en prêt à Leipzig.
Mais oui, de toute façon, j'avais dit dans un autre live, Leipzig, à partir du moment où ils ont vendu Nkunku, ils ont désigné que Xavi Simons allait être son successeur. Donc, en fait, en faisant cette manière-là, on a peut-être empêché Leipzig de l'acheter et nous d'être les cons qui devons le racheter derrière. Parce que, comme vous l'avez vu, Leipzig, ils font pas de cadeaux quand ils vendent leurs joueurs. Demande à Manchester City combien ils payent Gvardiol, demande à Liverpool combien ils payent Szoboszlai. Ils font pas dans le bénévolat. Hein. C'est s'ils avaient racheté Xavi Simons, ben, nous, on aurait été les cocus. Et quand on aurait voulu le récupérer dans un an, il nous aurait coûté 75-80 millions. Parce que il aura pas de clause PSG. Hein. Ça n'existe pas, ces clauses-là, à Leipzig, hein, pour faire la petite vanne. Mais sur ce, est-ce que. Non, on a. En tout cas, nous, on a fait les sujets, on a fait le tour des sujets. Peut-être que. Parmi vous trois, il y a un sujet que vous voulez remettre sur la table avant qu'on coupe le live, peut-être, ou peut-être dans le chat. Je vais laisser.
Non, on a fait le
Pas
tour,
spécialement.
non, bon, pas
Ouais, je pense
spécialement.
qu'on a fait le tour. Ouais. Ben, j'allais dire, je peux laisser le chat à la limite, mais ce que je propose plutôt dans le chat, si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde dans les prochains lives, parce qu'on va se donner rendez-vous très très bientôt, il y a un avant-match PSG Nice qui se déroulera sur la chaîne, bien entendu. Il y aura le débrief de ce match, bien évidemment, qui se tiendra. Donc, s'il y avait des sujets que vous voulez qu'on aborde dans les prochains lives, n'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez d'ailleurs surtout pas à liker ce live pour nous aider à référencer au mieux l'émission et pour son développement. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et pour finir les propagandes, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne de Lolo. C'est comme le port salut, c'est marqué dessus. Pour Ekoba, c'est pareil. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Et si vous voulez voir un peu de Bundesliga et que vous en avez marre que ce championnat soit exotique pour vous, bah, vous cliquez sur la mienne. Vous cherchez un petit peu. On parle de foot allemand, anglais, espagnol, français. Bref, on parle de foot, de tout. Merci à tous en tout cas d'avoir participé. On se dit à vendredi et n'oubliez pas, ici c'est
Paris.
Paris.
Paris. À plus.
Ciao, ciao, merci.